Okapi.
Okapi.
Okapi. Actif pour la paix.
Alors on passe directement à autre chose. Après avoir abordé la question sur les documents juridiques valables à l'achat d'une parcelle, nous allons mettre l'accent sur la journée mondiale du sida avec la femme de la prévention du VIH-Sida, avec Julie Laure qui est déjà dans ce studio. Voilà, le 1er décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du sida. Le thème de cette année est le leadership de la femme dans la prévention du VIH-Sida, une maladie pour laquelle de plus en plus des femmes sont infectées. Face à cette féminisation du VIH-Sida, plusieurs personnes s'interrogent, que faire pour y mettre fin ou encore pour inverser la tendance. Alors Julie Laure, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour Nicolas.
Alors pourquoi ce thème a été choisi au niveau national?
Il faut savoir qu'en collaboration avec ses partenaires, la campagne mondiale contre le sida a fixé pour thème cette année « Mener, responsabiliser, s'activer », développant ainsi le thème de l'an dernier « Appel au leadership de la femme dans la prévention du VIH-Sida », mettre en évidence le leadership comme thème de la journée mondiale sida 2007-2008. Donc c'est offrir une occasion de rappeler l'importance à la fois du leadership politique nécessaire pour remplir les engagements pris dans la réponse au sida. Et au niveau national, ces thèmes, juste pour faire impliquer la femme elle-même dans la prise en charge de cette pandémie qui prend de plus en plus de l'ampleur partout où elle se trouve, hein, la femme, dans sa famille, au marché, dans le travail, donc partout où elle se trouve dans la communauté.
Alors par rapport au thème de cette année, plusieurs problèmes sont posés. On parle entre autres de la féminisation du VIH-Sida.
Mais dans tous les rapports qui ont été récemment publiés, on dit que l'épidémie en RDC se ruralise et se féminise. C'est-à-dire qu'elle est de plus en plus présente dans les milieux ruraux. Elle atteint de plus en plus les femmes et les jeunes filles dont l'âge varie entre 14 et 24 ans parce que le pays est en situation de post-conflit. La situation économique et financière n'est pas encore très stable et n'est pas vraiment brillante. Et à part la féminisation du VIH-Sida, il y a plusieurs autres problèmes, à savoir l'accouchement à risque. Donc, il faut savoir que dans certains coins du pays, les femmes continuent à accoucher avec des matériels non stérilisés, essuyés. Et nul n'ignore aussi que la femme est économiquement faible. Certaines jeunes filles et femmes se livrent ou bien se prostituent afin d'avoir de l'argent pour leur survie ou bien subvenir aux besoins de leur famille. Et cela, des fois, a des conséquences ou des risques très néfastes, surtout contracter le VIH-Sida. Et nous sommes rendus à l'ONG Femmes Plus pour en savoir plus. Vous savez, Femmes Plus, c'est une ONG qui encadre plus les femmes dans la lutte contre le VIH-Sida. Et selon Pauline Goya, assistante sociale à cette ONG, le sida a effectivement un regard féminin parce que la femme est dépendante de l'homme, parce que la femme s'ouvre ou accepte facilement son état sérologique que l'homme. On l'écoute.
D'abord, si la femme est ciblée, c'est d'abord par sa ouverture. La femme s'ouvre facilement et vient vers les organisations de la lutte sans problème. Par rapport aux hommes, les hommes, pour qu'ils se présentent au niveau des organisations, de la prise en charge, même pour les soins, c'est tout un problème. La femme est facile à aborder, la femme est disposée à répondre à un appel, la femme accepte le dépistage volontaire sans complexe, la femme aussi, au niveau des consultations prénatales, se présente pour le dépistage. C'est là où on découvre d'autres femmes qui sont atteintes à travers l'examen et le dépistage volontaire. Tandis que l'homme, ce n'est pas la même situation que la femme. Donc la femme est être faible parce qu'elle est dépendante. Il dépend de son mari pour sa survie. Actuellement, les femmes ont facilement accès aux soins de santé parce que il y a des organismes internationaux, il y a des bailleurs de fonds qui ont installé des centres par-ci par-là pour faciliter les soins aux femmes. On a à peu près 10 000, 11 000 bénéficiaires. Parmi ces 10 000, on va retrouver un nombre réduit des hommes. c'est-à-dire parmi les 10 000, on a 7 500 femmes et 2 500 hommes.
Alors, Jolie Laure, vous avez exposé plusieurs problèmes que rencontrent les femmes. L'ONG Femmes Plus a également cité quelques-uns. Mis à part cette ONG, quelles sont les autres organisations? Combien de femmes ont accès aux soins de santé, Jolie?
Nous avons rencontré également l'ONG MSF Belgique, Elodie Dich. Elle travaille à MSF Belgique au projet SIDA. Elle est responsable du plaidoyer. Cette année, MSF Belgique a prévu des activités spécifiquement tournées vers les bénéficiaires ou bien les PDV, étant donné que MSF fête également les 5 ans d'ARV dans leurs actions. On écoute Elodie.
Eh bien, les femmes sont particulièrement vulnérables, en fait. Elles sont tributaires de leur famille, de certains tabous, mais malheureusement, elles font face à deux gros problèmes. Elle n'a pas forcément l'éducation, elle n'a pas eu la chance de faire des études qui lui permettent de se mettre au premier plan et de prendre justement le PID. Et deuxièmement, elle n'a pas ce pouvoir de se protéger. Même si elle est en famille, elle ne peut pas maîtriser les traitements de son mari. Ou nous-mêmes, d'ailleurs, dans notre projet, on a actuellement plus de 1450 femmes qui sont séropositives et qui sont sous l'ARV. Et dans les associations de personnes vivant avec le virus, on se rend compte qu'une grosse majorité des membres, ce sont encore des femmes. Donc ça illustre bien le fait qu'elles veulent s'engager, elles sont motivées, mais elles n'ont pas toujours la possibilité d'accéder au premier plan. Elles représentent un sérieux problème parce qu'elles représentent deux échelons et deux dangers de contamination. La femme, elle peut contaminer ses partenaires sexuels, mais la femme est aussi à même de procréer et d'avoir des enfants. Et donc là, c'est un problème supplémentaire, parce que la femme, qu'elle connaisse son statut ou pas, elle aura forcément envie d'avoir des enfants. Et donc là, il faut absolument qu'on connaisse ce statut-là pour pouvoir la protéger, elle, et protéger surtout son enfant au moment de la grossesse et de la naissance. On a assisté à un témoignage dernièrement d'une jeune femme qui nous expliquait que quand on n'a plus rien pour nourrir ses enfants, nourrir sa famille, et qu'on n'a pas les moyens d'avoir un petit commerce, et la dernière chose qu'on peut vendre, c'est son corps. Et on se rend compte qu'il y a énormément de jeunes Congolaises qui ont recours à la prostitution.
Il y a aussi un autre problème dont font face les femmes, surtout les PVV, c'est la stigmatisation, je dis.
Oui, effectivement, la stigmatisation reste pour les personnes vivant avec le VIH-SIDA un problème majeur. Awa Mahoma le concerne d'ailleurs. Awa Mahoma, elle est PVV, encadrée par l'ONG Femmes Plus à Kinshasa. Ça fait 12 ans qu'elle vit avec le SIDA. Au début, elle nous a laissé entendre. Au début, elle a été chassée de sa famille. On l'a pas acceptée facilement. On lui avait retiré la garde de ses enfants. Plusieurs fois, les bailleurs l'ont chassée de leur maison, de location. Donc, dans les quartiers, les gens l'ont indexée. Donc, elle était vraiment mise en quarantaine. Elle témoigne.
Maintenant, on a une telle situation. On a 12 ans, c'est quoi? Sans vérifier, au moment où on avait une matatabane. Donc, on a compté à 12 ans, juste mon colo et mon sac. Si les gens avaient 12 ans, moi, on a un sac en sac avec 2 mois, c'est quoi comme tu as 12 ans à Zali? On a payé à Zali, on a 23 ans. Et ça facilite, hein? En tout cas, ça facilite mon stéo. Tout d'abord, on a bien gagné dans un andaku, on a boto libana, on a boto libio, nyoso. Donc, on a petit qualité en ligne, on a. Thank you bye bye mamoyo abota inande kuna biso ifamongwe ye kutie na ndako batalaki wanate batalaika kabalo bikutu falenga na kufande kuna bangwa tikala.
Ça fait 12 ans aujourd'hui qu'on a SIDA. Est-ce que on a eu aux amoureux et à basse bille qui va faire basse dans le même cas ici? Est-ce que c'est facile que moi qui ai un SIDA? Est-ce que ma difficulté est vraiment d'une basse pour un SIDA beaucoup de la langue?
Ma difficulté est liée de l'air. Est-ce que tout stigmatisation est appelé à mi et pas à du soir? Stigmatisation est l'eau qu'on a dans des obos à du soir. Au jour où on a un tableau de zandéné. Tant qu'il va éviter à sérologie na yo ata afani ata kutuka ndi nazolo babuyi soki leki en direct voire même derrière soka amonika ngandi nazolo babuyi.
Voilà, alors est-ce qu'à Kinshasa, il y a plusieurs ONG qui sensibilisent le PVV dans la lutte contre le SIDA, Jolie?
Oui, le 27 novembre dernier, par exemple, à Kinshasa, il y a eu sensibilisation des professionnels de sexe par le directeur exécutif de l'ONU SIDA, Dr. Peter Piot. Et ce dernier a d'abord visité le centre IST Matongé, où les professionnels du sexe sont pris en charge gratuitement. Et selon le médecin chef du centre IST Matongé, Emerence Zindigi Kabia, il y a 2115 cas de professionnels de sexe depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'octobre de cette année. Et parmi ces professionnels de sexe, 65 cas sont atteints du sida, dont 25 sont sous traitement ARV, et les 40 autres prennent seulement des bactéries. Et donc, ce centre qui a enregistré 80 à 100 cas par jour connaît une baisse de malades. Actuellement, il ne reçoit que 10 à 20 cas par jour pour cause. Il en manque de médicaments, le personnel soignant n'est pas également payé.
Oui, plus d'une femme contracte le sida également par des viols. Par rapport à ça, justement, une campagne vient d'être lancée, je lis, 16 journées d'action contre la violence fondée sur les genres. De quoi s'agit-il?
Il s'agit de la campagne de 16 journées d'activisme contre la violence sexuelle. Comme tous les ans, vous le savez, cette campagne lutte contre le sida.
Voilà, merci Julie-Laure de nous avoir présenté ce dossier. Nous allons accorder la parole à notre invité, donc juste après les places d'information. Merci et à la prochaine, Julie.
À la prochaine.
Il est 10h à Kinshasa, 11h à l'Est. De la journée mondiale lutte contre le sida aujourd'hui 1er décembre. Et qu'est-ce qui a motivé les acteurs de pouvoir arrêter ce thème?
Oui, en fait, le thème de la journée mondiale sida 2008, c'est le leadership de la femme dans la prévention du VIH. En fait, ce thème est issu du thème global qui a été adopté au niveau international, qui fait mention du leadership. Mais dans le cas concret de la RDC, nous avons pensé que plus que jamais, c'est le moment d'élever la femme au niveau qu'il faut dans la lutte contre le VIH, parce que aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, il y a environ 2 personnes vivant avec le VIH contre 1 homme. Et donc, la femme ne doit pas continuer à rester au second plan dans la lutte. Et nous avons pensé profiter de cette journée pour élever la femme au niveau qu'il faut dans la lutte contre le VIH.
Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a, que, comme, disons, est-ce qu'on peut appuyer le langage de certains observateurs qui disent que aujourd'hui la prise en charge des PVV à travers le pays, cette prise en charge, elle est vraiment déficitaire?
Je pense que oui, parce que à l'heure actuelle, il y a environ 5% seulement des personnes éligibles qui ont accès aux antirétroviraux. Mais il y a des efforts qui sont faits au niveau du pays et avec les partenaires qui interviennent dans la lutte contre le VIH, notamment la Banque mondiale, le Fonds mondial avec le PNUD. Donc, on a quand même fait des gros efforts si on compare avec la situation d'il y a quelques temps où on était à peine à 1%. Donc aujourd'hui, si on est à 5%, je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais il faut aller encore beaucoup plus loin.
Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en RDC, l'attitude de la femme par rapport à cette lutte, par rapport à l'homme, disons, dans cette lutte contre le sida, elle est un peu plus positive que l'attitude de l'homme?
Bon, l'attitude de la femme, quand vous dites qu'elle est plus positive que l'attitude de l'homme, je ne sais pas vraiment ce que vous voulez dire, mais il est vrai que dans notre pays, il y a des pesanteurs culturelles, c'est vrai. Il y a aussi le fait que la femme se retrouve comme une grande victime dans tous ces problèmes de violences sexuelles et constitue aussi les lits, entre autres, de la transmission du VIH. Donc, c'est vrai, quelque part, la femme se retrouve un peu plus dans les problèmes que l'homme. Mais nous pensons que les problèmes sont globaux, les problèmes sont généraux. Aussi bien l'homme que la femme, tout le monde se retrouve dans les problèmes et nous tous devons trouver la solution.
Oui, aujourd'hui on parle de taux de prévalence autour de la jeune fille, par exemple, entre 14 et 24 ans. Mais hier, ce n'était pas les langages qu'on avait utilisés.
Vous parlez de la prévalence?
Oui.
Oui, aujourd'hui, bon, le taux de prévalence, au moins qui est retenu encore par le programme national, c'est ce taux de 4,1%. Évidemment, le taux de prévalence qui a été mesuré dans la sérosurveillance auprès des femmes enceintes. Donc, il y a eu d'autres études qui ont été menées, particulièrement avec l'enquête EDS, qui, là, c'était une étude qui a été faite au niveau d'une autre cible, la population sexuellement active. Là, on a eu un taux de 1,3%, mais les deux taux ne sont pas comparables, on ne peut pas comparer les deux. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes toujours dans une situation d'épidémie généralisée. Oui. Et donc, nous sommes encore un pays prioritaire dans la lutte contre le VIH. Il y a des actions des fortes enjeux qui doivent être menées dans le cadre de la lutte.
Oui, mais par rapport à la tranche d'âge ciblée aujourd'hui, parce qu'hier on ne parlait pas de ces langages, entre 14 et 24 ans de jeunes vraiment exposés à cette maladie, hier on ne le disait pas comme ça. Est-ce qu'il y a des éléments qui entrent en ligne des comptes?
Vous savez, le jeune constitue un groupe à haut risque. Et d'ailleurs, pour nous, au niveau de l'UNFPA, le jeune constitue notre cible prioritaire, avec la femme bien sûr, dans la lutte contre le VIH. Vous savez, le jeune a un type de vie, un genre de vie, qui les expose plus au VIH que les autres. Ils sont pleins d'élan, ils sont pleins d'enthousiasme, et ils n'hésitent pas parfois à adopter des comportements à risque. Mais sachez que quand vous entrez dans la profondeur de cette prévalence qui est élevée chez les jeunes, vous trouverez que ce sont les adultes qui transmettent le virus auprès des jeunes filles, des bas âges, quoi. Donc il y a ce problème des rapports intergénérationnels qui est un problème sérieux pour nous, des parents, des hommes qui sont à la quarantaine, mais qui courent avec des jeunes qui sont à 15-20 ans. Et c'est ça aussi un autre problème qui intervient dans la transmission du VIH.
Oui, le leadership de la femme dans la prévention du VIH veut dire concrètement quoi? Est-ce que c'est une responsabilisation de la femme ou bien c'est autre chose? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cela concrètement?
Vous avez presque dit. Aujourd'hui, nous voulons une responsabilisation, nous voulons porter l'action de la femme à un niveau plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire, la lutte contre le VIH ne doit pas rester un problème des hommes seuls. Non. Je pense qu'on a longtemps laissé la femme à l'écart, mais plus que jamais, il faut que la femme prenne le VIH. Mais nous pensons que pour une fois, en cette journée du 1er décembre 2008, en cette journée de la commémoration de la journée SIDA, nous voulons que la femme puisse se réveiller. Nous voulons qu'il y ait un sursaut de la femme pour dire non, ça suffit, maintenant nous prenons notre place dans la lutte contre le VIH.
Oui, ben, ce qui étonne plus d'une personne, les curieux ne les comprennent pas très bien, parce que nous avons vu depuis toujours la femme plus, par exemple, l'ONG Femme Plus animée par les femmes. Nous avons vu d'autres ONG animées par les femmes, et surtout dans cette lutte. Aujourd'hui, s'il faut encore responsabiliser la femme, c'est comme si le travail fait par la femme n'est pas à hauteur des attentes, voilà, donc qu'on a souhaité dans cette lutte.
Quelque part, je peux dire oui. C'est-à-dire que la femme est en train de jouer un rôle, vous l'avez dit, il y a des ONG qui sont tenues par les femmes et qui marchent très bien. Mais je pense que ça ne suffit pas encore. Hein. Fondation Femmes Plus est là, comme vous l'avez dit. Hein. Il y a un très bon travail que ces ONG produit et tout le monde l'apprécie. Mais il y en a combien, ces ONG, qui sont tenues par les femmes et qui font un travail d'éclat? Elles sont combien, ces femmes qui, dans nos milieux, surtout en milieu rural, peuvent prendre la lutte en main? Si on voit encore des femmes dans les villes, tout ça, mais en milieu rural, c'est pas ça, la femme est vraiment reléguée à l'arrière-plan. Et je pense que maintenant, l'action que nous voulons mener, c'est de dire que la femme ne doit pas être laissée à la cuisine, la femme ne doit pas être laissée à l'arrière-plan, la femme ne doit pas être laissée derrière la maison, la femme doit prendre sa place. C'est la femme qui construit la nation.
Oui, oui, nous avons docteur, restez en ligne, on va vous rejoindre encore d'un moment à l'autre. Nous avons dans ce studio Madame Martine Goulou-Gouna, chargée de la réponse de la société civile et poste focal de l'atténuation de l'impact au PNMLS. Madame Martine, bonjour.
Bonjour.
Alors, on a suivi, vous venez d'ailleurs de suivre, docteur Alphonse Matondo. Je reprends la même question que j'avais d'abord posée au docteur Alphonse. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la prise en charge des personnes vivant avec handicap et cette prise en charge des déficitaires en République démocratique du Congo?
Merci de m'associer à cette discussion et à cet échange plutôt. D'abord, mon nom c'est Goulungana. Et ensuite, je remercie Dr Matondo qui est un partenaire de longue date. Et il me semble que Matondo a tout dit. C'est vrai que la prise en charge des personnes pas vivant avec handicap, comme vous l'avez dit, mais vivant avec le VIH, c'est un lapsus linguae, c'est pas grave. Mmh. La prise en charge n'est pas totale, vous disiez, c'est vrai. C'est vrai, comme a dit Matondo, parce que l'effort qui est fait, on ne peut pas se jeter des fleurs en disant nous avons atteint les 100% des personnes éligibles aux ARV. Ce serait trop de notre part de prétendre cela. L'effort est fait, mais nous sommes très loin des comptes. De dire que nous avons atteint les 100%, c'est nous appeler nous-mêmes, nous tous, aussi bien le programme que les partenaires qui nous soutiennent, tels que l'INFPA, qu'on doit encore et encore consentir des efforts pour que de plus en plus les personnes soient prises en charge de façon gratuite, mais que de plus en plus on sensibilise les personnes qui vivent avec le VIH à se faire dépister, à se faire connaître. Parce qu'un malade qui ne va pas vers le guérisseur, permettez-moi le terme, il ne sera pas soigné. Les personnes qui se cachent encore, se sachant porteurs de virus et qui ne se font pas connaître, comment voulez-vous qu'on les prenne en charge? Et donc, l'effort est à faire aussi bien au niveau de la sensibilisation, aussi bien auprès des décideurs, de tous les programmes, de tout le monde, pour que non seulement nous drainions dans le cercle, nous connaissions toutes les personnes vivant avec le VIH, mais toutes les personnes éligibles, je dis bien éligibles. Vous et moi, aujourd'hui, nous sommes déclarés personnes avec le VIH. Je donne un exemple, mais nous ne sommes pas nécessairement éligibles. Mais dès lors que nous entrerons dans le cercle de personnes éligibles, et ça, les scientifiques savent ce que ça veut dire, il y a des étapes qu'on doit traverser par les examens, le dosage du CD4, etc. Si on nous élit aux ARV, il faut que nous soyons à mesure.
Madame Martine, vos partenaires, le bailleur de fonds, vous mettez beaucoup de moyens à la disposition de PNMLS. Oui. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de l'insuffisance de la sensibilisation, ou la sensibilisation qui n'a pas été
totale,
ça étonnerait plus d'une personne, parce
non.
que c'est le PNMLS qui est sur le terrain.
Non.
Avec les partenaires.
Remettons les choses en place, s'il vous plaît. J'ai dit ceci, que l'effort que tous les partenaires, il n'y a pas que les bailleurs, mais les partenaires de terrain. Vous avez cité là quelques exemples de quelques ONG. Mais il y en a beaucoup. Nous disons que ce que nous faisons n'est pas encore suffisant, mon frère. Vous pouvez me dire combien de personnes sont portées de virus dans cette maison? Ils sont suspects? Vous ne le savez pas. Peut-être que nous ne vous avons pas encore sensibilisé. Pourtant, vous êtes à la base. Vous, c'est vous qui distribuez l'information. Donc, nous devons continuer la sensibilisation. Vraiment, si nous pouvons dire qu'on peut dormir sur les deux oreilles aujourd'hui, mais le programme est fini, le pays peut mettre le clapet sur le paillasson. Nous devons continuer, parce que, comme a dit ma tante tout à l'heure, tous les jours, il y a des infections. Ça veut dire que tous les jours, il y a des personnes qui bougent les oreilles à la sensibilisation. Et donc, c'est tous les jours qu'il faut continuer, papa. Tous les jours qu'on doit vous nourrir. Tous les jours qu'on doit vous nourrir également des informations.
Et bien, aujourd'hui, on parle de taux de prévalence autour de 4,2%.
Oui.
Est-ce que, par rapport aux efforts menés sur le terrain, notamment par les différentes ONG,
oui,
ou encore d'autres acteurs,
oui,
liés à cette lutte contre les SIDA, est-ce qu'on peut espérer qu'en République démocratique du Congo, par rapport aux moyens mis à la disposition par les bailleurs, que dans deux ou trois ans, on pourra encore réduire sensiblement ces taux, atteindre même 1%, c'est l'idéal, c'est ça ce qui serait l'idéal.
Merci, c'est l'idéal pour tous les pays. D'abord, de stationner ce taux-là, vous avez vu que nous ne sommes pas montés, ça veut dire qu'on a fait quand même un effort, mais l'idéal c'est de diminuer le nombre d'infections qui entrent dans le système. Mais c'est les personnes qui sont déjà infectées, elles sont là, donc le taux est là. Il faut réduire le taux de contamination. Il faut briser les chaînes de contamination. Et donc, toutes les cibles, vous avez cité tout à l'heure les jeunes, vous avez cité les femmes, vous avez cité, peut-être vous n'avez pas cité les personnes adultes qui ne sont ni jeunes ni femmes, donc les hommes que vous êtes. Tout le monde a la main. Il n'y a pas d'un côté des acteurs et de l'autre côté des spectateurs. Ce sont les ONG, c'est le secteur public, c'est le secteur privé, ce sont les entreprises, c'est tout le monde qui est dans
aujourd'hui, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la femme rurale.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est pratiquement le regard,
oui,
c'est-à-dire doit un peu changer, donc il faudrait maintenant qu'on tourne notre regard vers la femme rurale. Pour quelle raison?
Pourquoi? C'est parce que pendant longtemps, nous avons cru, nous tous, que le VIH-SIDA était une affaire de nous, les citadins. Mais laissez-moi vous dire qu'en 2006, on a remarqué qu'à Naissou, dans la province orientale, tout en nord, c'est une petite bourgade, le taux était à 6 points quelque chose, 1 ou 2. Et d'autres exemples sont là.
à Lubumbashi et dans d'autres milieux urbains, on a remarqué que le taux était plus élevé que dans certaines villes telles que Kinshasa. Ça veut dire que l'information n'est pas arrivée auprès de ces femmes. Et n'oubliez pas qu'il y a un autre facteur auprès de ces femmes rurales. Il n'y a pas que l'analphabétisme. Donc, pas suffisamment d'accès à l'information. Mais, laissons-nous dire que les guerres, ou la guerre qui continue encore, est encore un grand facteur auprès de ces femmes qui sont violées à travers les brousses, à travers les champs, à travers leur maison, devant leur mari. Donc, la femme rurale, je pense qu'elle a droit également à recevoir non seulement l'information, mais également les soins, comme toutes les femmes, comme partout dans le monde.
Oui, nous allons vous donner encore la parole, docteur Alphonse Matondo, chargé du projet SIDA et UNFPI. Alors, docteur, vous êtes encore avec nous?
Oui, je suis en ligne.
Alors, docteur, aujourd'hui, parce qu'on ne va pas vous prendre de temps, et nous savons que c'est le 1er décembre, et chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale, peut-être vous préparez pour d'autres manifestations. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement si toutes les PVV aujourd'hui ont accès aux ARV, aux ARV?
Non. Toutes les personnes vivant avec le VIH n'ont pas accès aux PVV. D'abord, c'est... Il n'est pas dit que toute personne vivant avec le VIH doit avoir les antirétroviraux. Il y a soit un pourcentage qui est éligible aux antirétroviraux. Et je vous ai dit tantôt que de ce pourcentage qui est éligible aux ARV, nous sommes encore à un taux assez bas. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau du pays. Parce qu'il y a qui a été décrété, si nous savons qu'il y a un collectif. Mais au moins, sous l'étendue du pays, il y a la gratuité aux ARV qui a été décrétée. Et je sais que les partenaires qui appuient le PNMLS dans la lutte accompagnent effectivement ce problème avec les ARV. Donc, à Kinshasa ici, ou partout à l'intérieur, il y a des sites, il y a des gens qui ont été formés et qui s'occupent des personnes qui vont avec les VIH et qui administrent les ARV.
Oui, docteur, par rapport au défi à relever, mis à part le manque ou le taux faible de dépistage volontaire, quels sont d'autres défis qui restent à relever par rapport à cette lutte contre le sida dans notre pays?
Je pense que les défis sont nombreux. D'abord, partant même du financement de la lutte. Je pense qu'il faut, le dire, la part, notre propre part dans la lutte, elle est insuffisante. Je pense qu'au niveau du pays, on devrait pouvoir relever le budget de l'État pour la lutte contre le VIH. Le budget de la santé, il est encore à un niveau plus bas. Et quand on prend le budget de la lutte contre le VIH là-dedans, il est vraiment négligeable. Je pense que la première chose qu'on devrait faire, c'est qu'au niveau du pays, qu'il y ait, je pense, beaucoup plus forte au niveau du gouvernement, parce qu'on ne doit pas continuer à compter sur les partenaires. Bien sûr, mais d'abord, ce n'est pas suffisant. Mais si le pays s'engage et prend le devant, je pense que les forces de ce bailleur feront qu'on pourra aller beaucoup plus loin. Et puis, il y a des défis, même dans les activités, dans la j'avais parlé tout à l'heure des problèmes de plaisanterie culturelle et tout ça qu'il faut vaincre, et ce n'est pas toujours facile. Et puis, il y a tous ces problèmes de l'Est que vous avez cités. Comment organiser la lutte comme il faut dans un climat d'insécurité, dans tous les climats que vous connaissez à l'Est du pays? Donc, voilà les efforts qui ont été amorcés et qui sont brisés à la suite de la situation sécuritaire. Donc, il y a tout un tas de défis qu'il faut relever dans cette liste. Et moi, je pense que le premier défi, c'est celui du financement par l'État.
Alors, nous avons une question d'un auditeur. Qu'est-ce qui explique le taux élevé de sida chez les femmes? Et pourtant, ce sont elles qui sont mieux sensibilisées par les ONG. Ça, c'est Michel Misambo. Docteur, que répondez-vous à cet auditeur?
Vous voulez savoir pourquoi le taux est plus élevé chez les femmes que chez l'homme? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, du point de vue biologique, l'anatomie même de la femme l'expose plus à la contamination que la femme. Vous savez que il y a les sécrétions génitales qui contiennent le virus et qui constituent la voie principale de transmission dans nos pays ici. Et donc, la structure biologique, la structure génitale de la femme est telle que le contact avec les sécrétions génitales est plus important, et donc il y a un risque de contamination plus élevé de la femme par rapport à l'homme. Mais il n'y a pas que cela. Il y a d'autres facteurs aussi. Aujourd'hui, nous connaissons tous ces problèmes de violence sexuelle. La femme n'a rien à dire. Elle subit tous ces problèmes de la femme qu'on doit gérer par une autre, par le frère du mari, sans savoir de quoi le mari est mort. Donc il y a tous les présenteurs aussi qui font que la femme se retrouve beaucoup plus exposée. Mais même au niveau de la sensibilisation, prenons le cas de l'instruction. Ce sont plus les garçons qui sont instruits et donc qui sont mieux informés que les femmes. Donc tout ça intervient et font que finalement, on se retrouve avec beaucoup plus élevé chez la femme que chez l'homme.
Docteur Alphonse Matondo, nous rappelons que vous êtes chargé du projet SIDA, FUNIAP. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci.
Voilà, nous allons rester toujours dans les registres Journée mondiale du SIDA avec Nono d'ailleurs. Nous allons nous rendre dans quelques instants à Ouvira.